France Culture.
À voix nue, Julien Thèves.
Hélène Darroze, cuisinière.
Bonjour Hélène Darroze.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous dans le 6e arrondissement de Paris, tout près de votre restaurant Marsan. Marsan comme Villeneuve de Marsan, dans les Landes, où votre père, votre grand-père et même votre arrière-grand-père tenaient un restaurant réputé. Le grand public vous connaît bien parce que vous êtes depuis 10 ans juré de l'émission Top Chef. Votre générosité, votre blondeur, votre accent du sud-ouest ne passent pas inaperçus. Aujourd'hui, vous dirigez 7 établissements à Paris, à Londres, dans le sud de la France et à Marrakech. Le guide Michelin vous a décerné 6 étoiles au total, dont 2 pour Marsan. J'ajoute que si vous êtes une chef reconnue, vous n'avez pas fait d'école de cuisine. Hélène Darroze, vous adorez le poulet rôti, les salades de tomates, les asperges, la béchamel, les pâtes à la carbonara, les chipirons à l'encre et le merlu koshkera, comme au Pays Basque, dont vous êtes un peu originaire aussi. Vous n'aimez pas trop le melon, la pastèque, le céleri. Vous aimez le rugby, la fête, les voyages, pour vous inspirer d'autres cuisines et d'autres cultures. Sur le plan personnel, vous avez adopté 2 petites filles au Vietnam, comme Johnny et Laetitia Hallyday, votre amie. Et moi, je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui parce que j'ai passé toute mon enfance au Pays Basque et que cet accent du sud-ouest et cette gastronomie dont vous êtes la représentante évoquent beaucoup de choses pour moi. Hélène Darroze, dans quel genre de famille avez-vous grandi dans les Landes ?
Une grande famille, hein. On était, que ce soit du côté de maman ou du côté de papa, on était très nombreux. Et les deux familles d'ailleurs s'entendaient aussi très très bien, étaient très complices. Et voilà, j'ai grandi dans une famille très unie. On était très famille. Les repas de famille qui étaient nombreux dans l'année, ben c'était 25 personnes autour de la table. Et dans les rires, dans la joie, j'ai jamais vraiment vu de personnes se chamailler autour de la table, je dois dire. Donc ça, c'était très sympa. Et puis oui, la fête, comme vous dites, tout était occasion à jouir de la vie, quoi, en fait. Hein. C'est pas vraiment faire la fête, enfin la fête, oui, mais vraiment, voilà, c'était tout tourné autour du bonheur. J'ai grandi dans deux familles qui habitaient les Landes, donc très attachées à leur terroir et à tout ce qui fait ce terroir et donc la bouffe, quoi, hein, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour d'une table, mais au-delà de la table, voilà, ben on vendangeait, on tuait le cochon, on allait à la chasse à la palombe, et c'était ça aussi des moments d'unité familiale et de bonheur familial. Voilà, j'ai grandi dans une famille où le travail était la loi. Toute petite, j'ai été confrontée au milieu du travail et du travail intense, passionné, où on donnait tout. Et ça, je pense que c'est resté en moi. Le travail était au cœur de la famille. Hein. On travaillait même le dimanche, puisque le restaurant de mes parents, mes grands-parents, hein, quand j'étais enfant, était ouvert. Donc moi, le dimanche, ben je voyais toute la famille travailler parce que tout le monde s'y mettait. Hein. C'était un restaurant de campagne, donc on sortait le dimanche pour avoir le repas du dimanche dans le restaurant. Et ben ça bougeait de partout. C'était voilà. J'ai eu une enfance très heureuse, quoi.
Ce qui est fou, c'est que votre arrière-grand-père, qui s'appelait déjà Darroze en ligne paternelle, était déjà un restaurateur connu et avait déjà obtenu des étoiles, en fait.
Alors, mon arrière-grand-père, non. Mon arrière-grand-père, non. Moi, je ne l'ai pas connu, de toute façon. C'était mon grand-père Jean, qui lui...
Qu'on appelait le roi Jean, je crois.
Le roi Jean, voilà, qui lui a eu 2 étoiles, en effet, très rapidement. Mon arrière-grand-père, qui s'appelait Henri... J'en ai entendu parler par papa, mais je ne l'ai pas connu. Mais c'était lui le fondateur de la maison familiale. Mais c'était juste, ça s'appelait le relais des voyageurs à l'époque. Donc c'était plus une auberge, voilà. Et c'était mon arrière-grand-mère qui était dans la cuisine. Lui, si je me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises, il était beaucoup plus pâtissier, je crois. Voilà. Mais après, c'est mon grand-père Jean, avec dans son ombre ma grand-mère Louise, mon grand-père n'aurait jamais été le roi Jean, comme vous l'appelez, s'il n'y avait pas eu Louise dans son ombre, qui se montrait jamais, mais qui était essentielle à la bonne marche de la maison, quoi, en fait. Mmh. Hein, donc voilà.
On reparlera dans un prochain épisode, justement, de l'importance des femmes, des grands-mères, de vos tantes, dans votre formation et de votre inspiration de cuisinière. Mais si on reste un petit peu sur les hommes, sur cette lignée paternelle, avec votre grand-père, le roi Jean, et ses fils, votre père Francis, qui a repris le restaurant, mmh. Je ne sais pas s'il y avait encore l'hôtel, et votre oncle, qui lui aussi était dans la cuisine.
Mes oncles. Bon, mon grand-père avait 4 fils et une fille. D'accord. Et les 4 garçons étaient dans la cuisine, les quatre. Donc, alors je crois qu'il y en a un qui est très vite parti. Je l'ai pas connu d'ailleurs parce qu'il est mort très jeune et je l'ai pas connu, mais il est très vite parti lui de la maison mère pour aller faire ses armes dans le restaurant de la femme qu'il avait épousée. Mais les 3 autres, papa, mon oncle Robert et mon oncle Claude, à différentes époques, sont passés dans le restaurant plus ou moins longtemps. Enfin, en général, c'était plutôt longtemps même. Mais voilà quoi, je les ai tous vus, tous ces 3-là, je les ai vus dans la maison familiale.
Vous avez grandi, votre mère était pharmacienne, donc en fait, vous n'alliez finalement au restaurant de votre grand-père et de votre père que le week-end.
C'est sa maman était pharmacienne. Elle avait rencontré papa parce que elle faisait un remplacement dans la pharmacie dont le mur mitoyen était l'hôtel familial, et elle allait déjeuner tous les jours, prendre son déjeuner au restaurant de papa, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, et que elle dit toujours que papa l'a séduite avec un plat de rouget et une poire. Voilà, et donc après elle a eu sa pharmacie. Elle a pas voulu, alors que mon grand-père aurait souhaité que la femme de son fils travaille dans l'hôtel familial, dans l'affaire familiale. Elle a voulu mener sa vie, elle a voulu sa liberté. Maman m'a toujours parlé de l'importance pour une femme d'être indépendante, et elle m'a montré l'exemple. Et donc, elle avait sa pharmacie dans son village natal, qui était à 15 kilomètres de Villeneuve-de-Marsan, en fait. Et donc, oui, la semaine, on a grandi avec mon frère dans cette pharmacie, auprès de mes grands-parents maternels. Mon grand-père était charpentier. Bon, il était en retraite quand il y travaillait plus beaucoup. Et puis, ma grand-mère maternelle, elle était institutrice, pardon. Et donc, on a grandi là. Et puis, c'est vrai que, après, le week-end, on partait rejoindre papa dans un... Alors, lui, tous les soirs, il rentrait à la pharmacie, mais on le voyait pas beaucoup parce qu'il partait très, il rentrait tard, il partait très tôt le matin. Et puis, le week-end, on se retrouvait dans ce milieu où, alors qu'à la pharmacie, tout était cartésien, organisé, voilà. Et dans l'hôtel familial, non pas que c'était pas organisé, hein, pas du tout, mais c'était déjà comme tout le monde travaillait, et maman mettait la main aussi à ce moment-là, hein, pendant les week-ends. Et c'est vrai qu'on s'occupait pas trop des enfants, donc on était, nous, livrés à nous-mêmes avec des grands cousins qui parfois faisaient de grosses bêtises, donc qui nous entraînaient dedans. C'était un monde beaucoup plus libertin, quoi. En fait, c'était
beaucoup plus festif.
Oui, beaucoup plus.
Plus de monde, plus d'énergie.
Ouais, oui, c'était
marrant, presque.
Ouais, c'est pour des enfants, c'était formidable. C'était incroyable.
Vous avez dit que vous avez des souvenirs des fournisseurs de votre grand-père et de votre père, parce que dans ce restaurant venaient les producteurs, les maraîchers, les chasseurs, les pêcheurs. Donc la bouffe dont vous parliez, vous l'avez vue arriver et être transformée dans des plats.
Tous les matins, c'était un défilé de c'était pas des cajots composés comme ça peut faire. Mais oui, c'est vrai que Monsieur Mouchès à l'époque, qui s'appelait le boucher, il arrivait avec ses agneaux de lait, Madame Marsan avec ses légumes, celui qui avait trouvé des cèpes dans la forêt arrivait avec ses cèpes, les saumons de l'Adour, ils arrivaient directement des pêcheurs. Tous les dimanches soirs, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que j'étais petite et ça faisait peur. La salle à manger familiale, parce que tous les dimanches soirs, donc après cette grosse journée du dimanche où il y avait eu du monde, des clients partout, on se retrouvait tous autour de mon grand-père. Alors tous, c'était il y avait son frère, sa sœur, les enfants de son frère, parfois de sa sœur, et puis ses enfants à lui, avec les petits-enfants, etc. Donc c'était cette grande table dans la salle à manger familiale qui la pièce d'à côté, c'était les chambres froides et la pâtisserie. Et il y avait deux énormes chambres froides, mais les vieilles chambres froides, vous savez, avec les grosses portes en bois, etc. Et dès l'automne, dès l'ouverture de la chasse, tous les dimanches soirs, les chasseurs arrivaient, mais c'était avec des sangliers en sang, des chevreuils en sang et en peau, et qu'on pendait comme ça dans la chambre froide. Et moi, ça me terrifiait, moi, ça. Je me cachais derrière les jupons de ma grand-mère ou de maman, et je jetais juste un coup d'œil. Mais voilà, mais j'ai été confrontée à cette réalité-là de la vie, quoi. De
la viande, de la découpe,
oui,
de l'animal.
De l'animal, mais aussi du végétal. Tous les dimanches après-midi, mon grand-père avait une ferme à quelques kilomètres. Allez, hop, ça, c'était la sortie du dimanche après-midi, et on était tellement heureux de la faire. On partait à Gaillères, c'est un petit village à côté, où il avait sa ferme qui s'appelait Daugé, et puis on était confrontés plus au milieu végétal, quoi. C'était, je me souviens d'un grand noyer, on ramassait les noix, je me souviens d'un grand jardin, voilà, c'était...
Votre grand-père, il tuait le cochon aussi à la ferme.
Il tuait le cochon, oui, bien sûr, il tuait le cochon. Il tuait le cochon, alors à cette tue-cochon-là, moi, j'y assistais pas trop. C'était plutôt du côté de maman, où pareil, j'avais un... le frère de mon arrière-grand-mère que j'ai bien connu les deux, hein. Voilà, chez lui on se retrouvait chaque année pour tuer le cochon avec mes grand-tantes, avec ma grand-mère, avec tous mes cousins de ce côté-là. C'était on se retrouvait pour ça, et puis il avait une petite vigne qu'on vendangeait. Ça, c'était notre fierté d'aller vendanger la vigne.
Il y avait tous les bons produits qu'on peut imaginer.
Oui, ben c'était je vivais dans les Landes, quoi. Donc c'est vrai que les Landes sont quand même assez réputées pour tout ce qui est bons produits, que ça vienne de la mer parce qu'il y a la mer, que ça vienne de la forêt, de la chasse, que ça vienne du poulailler, de la basse-cour, du potager. C'était formidable, quoi. C'est vrai que tout de suite ce goût que j'ai pour la recherche est permanente du meilleur du produit, je l'ai appris à ce moment-là, quoi.
Ah. Vous parliez de votre grand-père qui aimait bien, je crois, donc faire des grands repas avec sa famille, avoir toute sa famille autour de lui. Il y avait des plats un peu signature, on dirait aujourd'hui, des plats emblématiques, notamment le poulet frit, je crois que vous...
Alors ça, c'était tous les dimanches soirs. C'était le poulet rôti avec des grosses frites à la graisse de canard. Ça, c'était pas un poulet rôti, je vous dis, parce qu'on était tellement nombreuses. C'était plutôt 5 poulets rôtis. Elle aurait pu demander au cuisinier du restaurant de le faire, mais elle se faisait un point d'honneur à le faire elle-même. Et puis avec ces grosses frites très croustillantes, mais qui après, à un moment donné, baignaient un peu dans le jus du poulet un peu gras. C'était juste, voilà, il y avait ces beignets aux pommes à ma grand-mère. Ma grand-mère, le dimanche après-midi, souvent, on lui disait, allez mémé, on fait les beignets. Oh, elle râlait tout le temps. Et puis on lui disait, allez, on te pèle les pommes. Et parce une fois de plus, il fallait peler beaucoup de pommes parce qu'on était très nombreux et les beignets étaient tellement bons. Et puis on commençait à peler les pommes, et comme on faisait jamais bien, c'était toujours elle qui finissait par peler les pommes. Et voilà, il y avait certains dimanches, les jours de fête, il y avait la poule au pot. Ça, c'était très important le midi. C'était quand il y avait notamment les fêtes du village, par exemple, ça c'était la poule au pot, incontournable. Il faisait un plat on nous donnait ça de temps en temps. C'était un plat du restaurant ça s'appelait les filets de sol relais de campagne, parce que relais de campagne, c'était anciennement, enfin maintenant c'est relais château, et voilà, c'est ce plat, il l'avait intitulé comme ça parce qu'il appartenait au relais de campagne. Il était un des premiers membres, et je me souviens, c'était super bon, et de temps en temps on nous gâtait, on avait ce plat là, on se régalait. Les tomates farcies. Alors ça, mon grand-père était...
C'était une recette de votre grand-mère, je crois. Parce que chaque membre de la famille avait un peu aussi sa spécialité.
Ouais. Alors ça, c'était la recette de ma grand-mère maternelle, celle que moi je fais souvent. Mais mon grand-père, il aimait tellement les tomates qu'il ne concevait pas un repas sans tomates. Et donc l'été, il y avait de la tomate, en salade, en tomate farcie. Il y avait tout ce qu'on peut imaginer faire avec la tomate. Et l'hiver, on trouvait même de la tomate, parce que ils avaient passé tout l'été à faire la conserve. Je me souviens encore de la cave du restaurant, où il y avait un mur, qui était très grande, hein, où il y avait un mur entier de conserve de tomates qu'il avait fait pendant l'été et qui ressortait d'hiver. Voilà. Mais sinon, les tomates farcies, c'était tout ce qui était farci d'ailleurs, parce qu'elle faisait pas que des tomates farcies, elle faisait pommes de terre farcies, des petits farcis quoi en fait. Hein. Tout ça, c'était plutôt ma grand-mère maternelle. Ouais, c'était.
Vous faisiez la garbure hein, comme dans les Landes.
Oui, bien sûr, la garbure.
Si on peut expliquer ce que c'est.
Ah bah la garbure, c'est
emblématique.
Une espèce de soupe, mais qui fait office de plat, où cuisent ensemble des légumes très spécifiques, hein. Donc, le haricot, ce qu'on appelle le haricot maïs, qui pousse sur le, enfin, ou le haricot tarbé, il y a une petite différence entre les deux, mais qui pousse dans les champs de maïs, les deux. Il y a du chou, pommes de terre, carottes. Enfin voilà, il y a chacun a sa recette de garbure. Hein, c'est vraiment chacun y met un peu ce qu'il veut, mais surtout ce qu'il y a, c'est qu'il y a du confit de canard ou ma maman met du confit de porc aussi par exemple et c'est un plat. Moi j'en faisais une à un moment donné où je faisais même pocher un foie gras dedans et c'est un plat divin quoi. Hein, donc la garbure, oui bien sûr c'était. C'était sur la table. Il y avait cette époque-là, là, comme maintenant, à l'automne, il y avait la daube de cèpe, ce qui est un plat très landais. Et là, c'était rigolo parce que une de mes grand-mères, Louise, la faisait avec un vin sec, un vin blanc sec. Et mon autre grand-mère, Charlotte, du côté maternel, la faisait avec un vin doux, un vin plutôt liquoreux. Et je me souviens d'une fois où, ah non, hein, c'est comme moi qui ai la bonne recette. Et c'est assez rigolo, c'était là.
Est-ce que vous avez eu la chance de goûter à des ortolans?
Parce que ah oui, que, souvent, souvent. Alors, il paraît que la première fois, j'étais toute petite, ça c'est maman qui le raconte souvent, parce qu'il y avait des ortolans. Parce que, alors déjà, mon papa chassait l'ortolan, mon grand-père chassait l'ortolan, mes cousins, mes oncles ont chassé l'ortolan. Oui, voilà, ce sont des petits oiseaux migrateurs, quoi, hein, qui traversent.
Comme la palombe.
Oui, comme la palombe, ils sont tout petits et on les attrape avec ce qu'on appelle une matole et on les attrape vivants.
C'est assez cruel, la matole, c'est une sorte de cage.
Ouais, oui, referme sur eux. Cruel. Après, bon, ouais, c'est.
Aujourd'hui, ça paraît cruel.
Ouais, ça paraît cruel. Bon, après, voilà, c'est culturel, moi, je dirais plutôt, mais. Voilà et puis après on les prend et puis surtout on les engraisse, enfin on les engraisse, ils s'engraissent naturellement parce qu'on les met dans une grande cage et on leur donne à manger dans le noir, ils sont tout le temps dans le noir et donc ils ne font que manger, ils s'engraissent naturellement et ça devient une espèce de petite boule de graisse très goûteuse. On dit que ça a été le dernier repas de François Mitterrand
qui avait une maison dans les Landes.
Voilà, qui avait une maison dans les Landes. Et
comment on les mange alors? C'est quelque chose de très particulier.
Ouais, c'est très particulier. Bah après,
si vous avez vécu l'expérience,
ah, oui,
enfant.
Moi, alors donc il paraît que voilà, un jour mon papa en avait fait dans la maison familiale, notre maison derrière la pharmacie, et il y avait mon grand-père et ma grand-mère maternelle qui voilà, mon grand-père n'avait pas voulu le sien parce qu'il n'était pas très friand de ça parce que c'est quand même très particulier. Et j'étais assez petite, apparaît-il, et c'est moi qui ai mangé l'ortolan. C'était mon premier ortolan. Et après j'en ai mangé jusque là, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, parce que de toute façon, la chasse est interdite. Mais oui, j'en ai mangé très régulièrement, ça c'est clair. C'était vraiment un mets culturel dans.
Et on se cachait pour les manger.
Alors voilà. Parce que l'ortolan, il se mange, on le vide pas, on sort juste une petite glande, la bile, enfin qui est très bileuse, qui est très amère. Voilà. Donc, mais sinon, on mange tout et même les os quoi. En fait, hein, c'est assez. L'ortolan a des os très très fins. Donc, et le truc, c'est qu'on doit tout mettre dans la bouche pour vraiment avoir toutes les saveurs, etc. Sauf la tête, mais on met tout dans la bouche. Donc, premièrement, ben, on met cette serviette. Alors, c'est servi dans une petite cassolette. C'était servi hein, dans une petite cassolette. Donc, premièrement, on mettait cette serviette sur la tête ben, pour cacher, parce que c'est pas très esthétique de voir cette façon de manger en entier. Et puis en plus, l'ortolan, c'est très odorant. Ça a une odeur. D'ailleurs, je suis en train de travailler avec mes collaborateurs à Marsan, j'aimerais qu'on qu'on arrive à retrouver un peu ce parfum de l'ortolange. Je ne sais pas comment, enfin, on fait des essais, on va peut-être y arriver, mais un de mes cousins m'a donné un truc, et voilà. Et c'est tellement odorant que voilà, cette serviette, ça
concentre,
voilà,
encore la sensation.
Voilà,
On a l'impression, à vous écouter, que finalement, toute votre enfance a tourné quand même énormément autour de la bonne chère. Il y avait d'autres éléments.
Oui, il y avait la bonne chère, mais il y avait aussi le bien recevoir, le partage, quoi, autour de... Il n'y avait pas que manger.
Parce que c'était un hôtel aussi, l'établissement de votre père.
Oui, mais même en famille, quoi, c'était... On partageait tout, quoi. Voilà. Quand je vous parle de ces tucochons ou de ces repas de vendange, on arrivait, je me souviens, avec mes tantes, le mercredi après-midi, elles m'amenaient déjà pour commencer à préparer. C'était un truc, c'était un repas immuable, hein. C'était cette fameuse poule au pot. Et après, derrière, un gigot d'agneau avec des flageolets. Après, il y avait des gâteaux. Et en premier, il y avait le bouillon de la poule au pot. Et elles commençaient à préparer dès le mercredi pour le samedi, les vendanges étaient toujours le samedi, et déjà, elle m'amenait, moi, enfant, dans ce moment, dans cette cuisine où toutes mes grandes tantes se retrouvaient pour cuisiner cette poule et tout ce qu'il y avait à cuisiner. Et ça, on mangeait pas, on cuisinait, mais c'était un moment de partage et d'apprentissage pour moi qui était juste incroyable, incroyable. Et puis, c'était des valeurs qu'on me donnait qui... d'authenticité, de simplicité, de générosité, c'était incroyable, quoi.
Donc enfant, déjà vous mettez la main à la pâte très vite, très naturellement.
Moi très vite, ouais, très vite.
Vous parliez de peler les pommes, notamment pour les beignets. Ouais. Quels autres petits gestes vous avez fait pour accompagner
Alors, moi, j'ai commencé beaucoup. J'ai commencé beaucoup. J'ai très jeune, très tôt. Hein, je pense que j'avais 6 ou 7 ans. J'ai commencé par pâtisser. Moi, j'ai fait de la pâtisserie. J'ai beaucoup fait de pâtisserie. Mes parents, quand ils recevaient, après, à un moment donné, quand j'ai eu assez de... Voilà, c'était pas une pâtisserie que je faisais quand ils recevaient, c'était à la maison. C'était un chariot de pâtisserie.
Car... Quel âge vous aviez?
Oh, je sais pas. Là, à ce moment-là, je devais être au début de l'adolescence, quoi.
D'accord.
Mais ma première tarte, je l'ai faite très, très tôt. J'avais 6-7 ans, je pense. Moi, je me souviens aussi, ma grand-mère faisait un gâteau à la crème de lait, parce qu'à l'époque, ma grand-mère recevait le lait de la ferme directement. Et donc, il y avait cette peau du lait très épaisse, très crémeuse, de ce lait entier qui arrivait directement du pis de la vache. Hein. Et elle faisait un gâteau à la crème de lait. Je me souviens, j'étais toute petite quand j'ai commencé à faire avec elle le gâteau à la crème de lait.
Vous avez vous avez énormément de souvenirs qui sont effectivement liés à la nourriture, mais aussi à la récolte des bons produits liés au végétal, notamment, je crois, les asperges. Vous avez des souvenirs de cueillettes d'asperges, parce que c'est très particulier.
L'asperge des Landes, oui, l'asperge des Landes, elle est très particulière parce qu'il faut qu'elle reste blanche. Donc, elle ne doit pas voir le jour. Elle ne doit pas développer sa chlorophylle. Elle doit pas voir le jour. Donc, c'est une culture où, en fait, c'est des mottes de terre, et elle pousse dans ces mottes de terre de manière à ce qu'elle reste dans la terre jusqu'au dernier moment. Et oui, et puis on va, avec ce qu'on appelle une gouge, du coup, on va déterrer et cueillir l'asperge. Alors, j'adorais faire ça, moi, et je me souviens encore du bruit que ça fait, quand clac, on va casser le pied de l'asperge pour pouvoir après la retirer de la terre. Et voilà, et mon grand-père avait un champ d'asperges, mon grand-père maternel, du coup, à Vielle-Soubiran, dans le village de son enfance. Il avait un très beau potager avec ses sœurs, et il avait ce champ d'asperges, et tous les matins, on allait ramasser les asperges. Ouais, c'était formidable. Et on s'arrêtait dans un petit bois, et là, on ramassait les fraises des bois. C'était vraiment un rituel incroyable, et j'adorais ça, quoi. J'adorais ça. Et alors, on ramenait les asperges et on les mangeait le soir même. Elles n'allaient même pas dans le frigo. On se mettait à les éplucher tout de suite sur un papier journal là, qui commençait à sentir l'humidité. Et c'était formidable, quoi. On les mangeait, elles étaient fraîches. Il fallait faire très attention parce que quand les asperges sont trop fraîches, elles se cassent comme du verre. Donc il fallait être très délicat quand on les épluchait.
Très précautionneux. Je reviens un petit peu à l'histoire finalement de votre père, de votre grand-père, parce que c'est quand même une famille de restaurateurs de père en fils. mm-hmm. plus tard en fille. Mais comment ça s'est passé entre eux, la transmission, comment c'était naturel pour votre père de reprendre le restaurant? J'ai l'impression qu'avec
c'était pas naturel. Ouais, il y a eu des soucis, oui, parce que mon grand-père était quand même quelqu'un. Alors autant mon grand-père était avec ses petits-enfants, un grand-père gâteau.
Le roi Jean, hein, je précise. Votre père, c'était Francis.
Voilà, papa, c'était Francis et mon grand-père, c'était le roi Jean. Et mon grand-père, il nous a gâtés à nous, les petits-enfants, mais c'était juste incroyable, quoi. On a vraiment été adorés par ce grand-père. Par contre, avec ses enfants, il a toujours été très, très, très dur et il était très dur dans le travail mon père et mon oncle n'avaient aucune liberté dans le travail, quoi. C'était incroyable et donc à un moment donné ça tout a pété, quoi, hein, et mon papa et mon oncle ont quitté la maison familiale pour aller un peu voler de leurs propres ailes, et puis après ils y sont revenus, mais il y a eu une période où en effet papa et mon grand-père étaient fâchés. Moi je me souviens, maman nous amenait voir mon grand-père un peu pas en catimini, parce qu'elle cachait pas ça à papa, mais c'est vrai que papa ne venait pas, et voilà. Ça a été court, hein. Ça a été une période assez courte, ils se sont vite retrouvés.
Donc la dynastie Darroze à Marsan était vraiment bien présente, mais vous avez un peu, je crois, de sang basque.
Oui.
Par votre grand-mère paternelle, mais que vous n'avez pas connue.
Non, alors parce que ma grand-mère Louise elle a toujours été, ma grand-mère de dans mon cœur, et voilà, mais c'est vrai que c'était pas ma grand-mère de sang, c'était la deuxième épouse de mon grand-père, et la maman de papa que je n'ai jamais connue, qui est morte très jeune, elle était basque d'Andaye, donc je suis très fière d'avoir aussi du sang basque. Et du coup, j'ai passé beaucoup d'été au Pays Basque, à Andaye, à Biarritz, et puis aujourd'hui je passe beaucoup plus de temps au Pays Basque d'ailleurs que dans les Landes, parce que papa et maman maman maintenant toute seule puisque papa est parti, mais enfin voilà, ils ont habité là depuis 15 ans, quoi.
Bon, à vous entendre, Hélène Darroze, j'ai l'impression que vous avez eu une enfance très heureuse et qui vous préparait, vous prédestinait à être ce que vous êtes, c'est-à-dire une cuisinière accomplie. Mais c'était pas finalement si simple, puisqu'en fait, je crois qu'au départ, vous êtes parti sur d'autres chemins. Peut-être on en parlera demain. On se retrouvera pour un deuxième épisode et on évoquera vos années de formation étudiante et comment un jour vous aussi vous avez quitté Marsan pour voler de vos propres ailes. À demain, Hélène Darroze.
À demain, merci.
C'était À voix nue avec Hélène Darroze, réalisation Marie-Laure Ciboulet, prise de son Hervé Dubreuil, chargée de programme À voix nue, Daphné Abgraal. Une série de Julien Teff disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.